Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
C'est une mère tiraillée et dans le doute qui vient d'ajouter encore un peu plus de troubles dans l'affaire Delphine Jubilard. Cette jeune infirmière de 33 ans disparue depuis maintenant 6 mois. Nadine, la mère de Cédric Jubilard, a confié il y a quelques jours à une voyante être sûre de la culpabilité de son fils. Des propos qu'elle a ensuite modérés, mais qui sèment le doute sur ce qu'aurait pu faire Cédric Jubilard, incarcéré pour meurtre depuis le 18 juin dernier. Alors que dit exactement la mère de Cédric Jubilard? Que nous apprennent ses déclarations? Toutes les explications dans un instant avec nos invités, mais d'abord les derniers éléments de la semaine avec Anne-Solène Tavernier.
Ce jeudi 16 septembre, tiraillée par les doutes, c'est une auditrice un peu spéciale qui appelle le service de voyance d'une radio locale du Tarn. Au bout du fil, Nadine, la mère de Cédric Jubilard.
Avant la garde à vue au mois de juin, j'étais persuadée de l'innocence de mon fils. Après la garde à vue et tout ce que m'ont montré les gendarmes, je suis malheureusement persuadée de la culpabilité de mon fils. J'aimerais savoir où est le corps de ma belle-fille pour qu'on puisse lui offrir une sépulture décente.
L'enregistrement ne sera pas diffusé, mais cette confession jette le trouble. Car depuis le 18 juin, son fils est mis en examen pour le meurtre aggravé de son épouse Delphine. La radio sollicite un nouvel entretien. Cette fois, les paroles sont plus prudentes.
Je laisse le soin à la justice de faire son métier. Mais quand j'ai parlé avec votre collègue, c'était une discussion, pas intime, mais privée. Aujourd'hui, disons que je me suis un petit peu calmée.
À froid, Nadine explique avoir contacté cette voyante comme on jette une bouteille à la mer.
Je suis toujours dans l'ignorance et je cherche par tous les moyens, possibles et inimaginables. La chose que je pourrais dire à mon fils aujourd'hui, c'est que je l'aime, que je suis sa maman, que je l'aimerai toujours et que je serai toujours là pour lui. J'espère juste que la vérité va éclater vite.
La première déclaration de Nadine peut-elle faire basculer l'affaire? Pour l'avocat de Cédric Jubilard, l'élément est irrecevable.
Prétendre pouvoir mettre à la disposition de la justice cet enregistrement clandestin qui a été obtenu de manière déloyale me choque prodigieusement.
Cédric Jubilard continue de nier toute implication dans la disparition de sa femme. Ce mardi, sa demande de remise en liberté a été rejetée pour la troisième fois consécutive.
Et avec nous, Brice Vidal. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, coordinateur de la rédaction de 100% Radio. On avait évidemment envie de reprendre tout ce qui s'est passé cette semaine avec vous et de comprendre précisément ce qui s'est passé. D'abord, ces confessions, cette discussion qu'a eue la mère de Cédric Jubilard avec une voyante. Expliquez-nous dans quel cadre ça s'est passé.
Le cadre, il est effectivement un cadre d'antenne dans une émission qui s'appelle La Voyance en direct. Madame F, donc Nadine, s'inscrit, remplit un formulaire et contacte l'animateur et la voyante, et là, elle se livre.
Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qui elle est à ce moment-là? Madame F, elle dit « je suis la mère de Cédric ».
Tout de suite, si vous voulez, bon, l'affaire évidemment fait grand bruit, vous le savez, au niveau national, y compris dans la région Occitanie. Et à ce moment-là, quand l'animateur entend Nadine F de, je ne vais pas vous citer la ville, mais c'est une ville à proximité d'Albi, il comprend à qui il a affaire. Dès qu'elle se livre, il fait tout de suite le rapprochement.
Qu'est-ce qu'elle va dire? Comment va se dérouler cet échange?
Elle en vient très vite à dire, enfin, l'animateur et la voyante comprennent qui elle est, et tout de suite, ils rentrent dans le vif du sujet. Et à ce moment-là, texto, elle dit qu'elle pense son fils coupable. Elle dit, avant la garde à vue, au mois de juin, j'étais persuadée de l'innocence de mon fils. C'est vrai qu'elle a fait plusieurs heures de garde à vue, sûrement 48 heures, a priori, hein, une garde à vue renouvelable. Une fois que les gendarmes m'ont présenté les pièces, les éléments, les indices, je suis désormais persuadé qu'il est coupable. À entendre le document sonore, si vous voulez, elle est très affirmative. Il n'y a pas de place au doute au moment où ce document, dans ce document sonore.
Ce que vous dites est intéressant, vous n'avez pas diffusé ce document sonore, on va y revenir. Vous l'avez entendu, nous non, personne ne l'a entendu. C'est une mère désespérée, à bout. Comment vous la percevez ?
Moi, je suis obligé de prendre un peu de recul, moi et mon équipe, pardonnez-moi. On est obligé de prendre un peu de recul, justement, par rapport à cette affaire, parce que médiatisation, possible, présumée difficulté pour cette maman d'avoir son fils en prison depuis le 18 juin dernier, possible vulnérabilité. Donc, ce document, on le prend avec des pincettes, on écoute. Effectivement, elle est affirmative. Mais nous, on souhaite absolument réentendre Nadine pour essayer de voir si elle maintient, de voir si elle... modère son propos, c'est nécessaire à ce moment-là de la réentendre. Ça ne suffit pas pour nous, ce document, parce qu'effectivement, les révélations, elles sont fracassantes. C'est une maman qui accuse son fils d'homicide. Donc c'est quand même... Alors, sans preuve, sans indice, c'est de la psychologie, purement.
Et Brice, du coup, pardon, juste pour qu'on ait la fin de l'histoire, vous la recontactez et vous allez la rencontrer.
Par le biais de
son avocate. Et c'est là qu'elle va modérer ses propos.
Elle ne dément pas, le document sonore, vous avez pu l'entendre, celui qu'on a diffusé, elle ne dément pas, mais elle modère.
Ouais.
Elle n'est plus aussi affirmative. Donc la question, est-ce qu'il y a eu un briefing ? Est-ce qu'elle a été bridée ? Ce qui pourrait se comprendre dans une affaire aussi sensible, y compris de la part de la partie civile, hein, puisque Nadine est partie civile aujourd'hui dans l'instruction. Ce serait compréhensible.
Vous avez recueilli donc les... confidences,
confession.
Hein, de les confessions de la mère de Cédric Jubilard, ça peut être important pour l'enquête. Qu'est-ce que vous décidez ? Et vous êtes un journaliste, donc ce n'est pas votre boulot de travailler avec les enquêteurs, même si ça peut être parfois utile. Qu'est-ce que vous décidez de faire ?
C'est un indice émotionnel, ce n'est pas un indice dans le cadre de l'instruction.
Ouais.
Ce qu'on décide de faire, c'est... recontacter, entendre, réentendre et après, alors j'entends beaucoup dire, et pardonnez-moi, je vais faire une petite digression, c'est du off, il y a une digue qui a été franchie, ils ont piégé.
C'est ce que dit l'avocat de Cédric Jubilard qu'on a entendu tout à l'heure.
Non, il n'y a pas
il
eu
dit clairement, c'est dégueulasse. Il dit c'est dégueulasse.
Il n'y a pas eu de piège. Le off, c'est pas ça. Vous avez une confession off, imaginons, d'un ministre, n'importe quoi. Est-ce que vous allez le confronter à ses déclarations 4 jours plus tard ? Non. Le off, c'est pas ça. Là, nous avons confronté dans un cadre avec l'avocat, ça a été négocié, entre guillemets, cette interview, la deuxième, hein, celle qu'on a diffusée.
Quel avocat ?
Maître Chefaroudi, l'avocat de Nadine.
De la mère.
De Nadine, d'accord.
De la mère de Cédric Jubilard. Oui.
De notre interlocutrice. Là, on l'a fait réagir à un propos qu'elle a tenu 4 jours avant. Ce n'est pas du off, ça.
Avec nous, Sandrine Morin également. Bonjour, merci d'être avec nous dans Affaires Suivantes. Vous êtes journaliste à France Bleu Occitanie, vous connaissez bien ce dossier. On voulait aussi prendre un peu de recul sur cette affaire. Ça nous interroge, cette affaire, et ce qui s'est passé cette semaine, sur les liens, sur la famille Jubilard. Est-ce qu'on sait comment et quel lien avait la mère de Cédric Jubilard avec sa belle-fille ?
Nadine Jubilard a très souvent effectivement parlé de sa belle-fille Delphine. Elle en a parlé, elle en a dressé parfois un très joli portrait comme une mère aimante, sans doute parfois un portrait un peu plus compliqué dans ces mois entre janvier, mars, février, mars où on ne savait pas. On a un témoin de la famille Jubilard qui dit qu'elle était même très dure avec sa belle-fille. C'est moi ce que toute cette semaine me laisse à penser, c'est sans doute le portrait d'un Cédric Jubilard qui reste en prison, parce que c'est ce qu'on a appris aussi cette semaine. Cédric Jubilard reste en prison, un homme qui était jusqu'ici très défendu par sa mère. Elle avait pris contact avec France Bleu Occitanie, Nadine Jubilard, pour dire « laissez mon fils tranquille, ne parlez pas de lui, arrêtez de parler de lui ». On l'entendait aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les groupes Facebook qui se sont montés autour de cette affaire. Nadine, c'était vraiment celle qui défendait en premier son fils, alors peut-être que... il y a un peu de doute aujourd'hui, peut-être qu'il y a la solitude, peut-être qu'il y a les temps qui passent. Et puis sur France Bleu Occitanie cette semaine, on a aussi entendu un témoignage très très fort, qui est celui des avocats, de l'avocat des enfants de Cédric et de Delphine Jubilard, les deux petits-enfants qui parlent de la relation Cédric avec ses enfants, ou en tout cas de l'absence de relation, pas de lettres, pas de courrier depuis ces mois où Cédric est en prison. Donc vraiment, j'ai cette impression d'un homme très seul en prison. C'est en tout cas ce que me laisse à penser cette semaine.
Merci beaucoup Sandrine Morin et je vous dis à bientôt parce que vous êtes l'une de ces journalistes qui travaillaient sur ce dossier qu'ils connaissaient très très bien et on aura l'occasion probablement dans les prochaines semaines de revenir vers vous. Brice Vidal, est-ce qu'à l'issue de cette semaine, vous qui suivez aussi ce dossier de près, vous avez le sentiment que cette pièce est une pièce importante du puzzle ?
C'est une question difficile, ça sera au magistrat instructeur d'y répondre. Moi, je répète que c'est un indice qui est émotionnel, qui est de l'ordre du psychologique. Si cette affaire est audiencée un jour en cour d'assises, peut-être que ce témoignage comptera. Il est à la disposition de la justice si elle estime important de l'écouter. Et il est possible que les magistrats, ils doivent instruire à charge et à décharge. Peut-être ils écouteront juste pour savoir ce qu'il y a. A priori, on a bien fait notre boulot, il n'y a pas d'indice ou de preuve. Il y a juste des données émotionnelles dans cette interview.
D'un mot, est-ce qu'elle vous dit quelque chose de ses relations aujourd'hui avec Cédric ?
Oui, elle dit qu'elle n'a plus de relation.
Elle dit qu'elle l'aime.
Plus aucune relation avec Cédric Jubilard. Elle dit qu'elle l'aime, que c'est son fils. Mais quand elle dit qu'elle n'a plus de relation, ça c'est normal. Elle est partie civile, elle ne peut pas prendre contact avec un mis en cause.
Et elle dit qu'elle l'aimera quoi qu'il arrive.
Quoi qu'il arrive.
Merci beaucoup. Merci Brice Vidal d'être venu sur le plateau d'Affaires Suivantes nous éclairer sur toute cette actualité qui s'est déroulée cette semaine autour de l'affaire Jubilard. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant évidemment et nous allons vous raconter cette histoire à peine croyable. Comment un homme, Claude Alonso, 81 ans aujourd'hui, avait mis en place une secte très particulière dans le petit village de Gujan-Mestras. Il se faisait appeler Zeus et avait reconstitué un Olympe où la règle était simple, seul le sexe peut sauver l'humanité. Plusieurs femmes qu'il avait manipulées ont été violées, abusées, dont sa propre fille. Son procès devait commencer lundi, il a été repoussé. On va vous raconter les coulisses de cette affaire dans un instant. À tout de suite. Il est 13h22, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez sur BFM TV, vous regardez Affaires Suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. Appelez-moi tout simplement Zeus. Claude Alonso devait être jugé à partir de lundi à Bordeaux pour viol et abus de faiblesse. Claude Alonso, qui se faisait donc appeler Zeus et qui avait, dans le petit village de Gujan-Mestras, recréé un Olympe. Autrement dit, un lieu fermé où, habillé en toge, il professait ses enseignements et soumettait plusieurs femmes qu'il avait manipulées. Sa doctrine, le sexe peut sauver l'humanité. Le récit, les témoignages dans un instant avec nos invités sur ce plateau. Mais d'abord, retour sur 15 années de délire sectaire avec Anne-Solène Tavernier.
Il se prenait pour le tout-puissant Zeus. L'homme s'appelle en réalité Claude Alonso. Au début des années 2000, il reconstitue le domaine des dieux en pleine nature au sud du bassin d'Arcachon. Sur ces images de la revue Le Nouveau Détective, la maison rouge où il n'avait qu'à grimper les quelques marches menant à la mezzanine de son salon pour atteindre l'Olympe. Tout y est, les tables de loi, des bas-reliefs et des jarres de style antique et même une réplique d'Excalibur dans un porte-parapluie. Tard le soir, sur son trône de velours, drapé d'une toge rouge, l'homme plutôt malingre philosophe. Un discours qui mêle mythologie, ufologie et délire mystique. Sa doctrine, le sexe peut sauver l'humanité. À ses disciples exclusivement féminines, il impose des travaux, en réalité des relations sexuelles. Ces femmes, au passé traumatique et un peu paumé, ont toutes été rebaptisées du nom de déesse grecque. Et à celles qui opposent un peu de résistance, le despote lubrique administre une boisson sacrée, un mélange de vin, d'anxiolytique et de fluide corporel. Jusqu'en 2015, la microsecte vit en vase clos. Zeus règne en maître absolu. La chute viendra de deux jeunes femmes, sa favorite Corée et sa propre fille Artémis, qui, une fois libérées de son emprise, vont fuir et alerter les autorités. Celui qui se prenait pour un dieu doit désormais répondre à la justice des hommes pour viol et abus de faiblesse.
Et pour comprendre ce qui s'est réellement passé, les dessous de cette affaire qui semble à peine croyable, Maître Malène Picotinguet, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour,
vous
monsieur.
Êtes l'avocate de la fille de Claude Alonso, victime elle-même de son père et de cette dérive sectaire. Vous allez évidemment nous raconter ce qu'elle a vécu, nous expliquer ce qui se passait dans cette maison de Gujan-Mestras. Margot Dadémar, journaliste au Figaro, qui connaît bien cette affaire, est également avec nous. Bonjour, bienvenue. Et Pascal Neveu, bonjour, psychanalyste, bonjour. Directeur de l'Institut français de la psychanalyse active, pour nous éclairer sur aussi ces dérives sectaires et cette emprise qu'on arrive à installer sur des personnes. D'abord, Maître, on a récapitulé là en quelques mots ce qu'ont vécu les victimes, parce que ce sont des victimes, il faut d'abord penser à elles. Expliquez-nous concrètement quel était leur quotidien, comment ça se passait dans cette maison.
Eh bien, dans cette maison, tout se passe, si vous voulez, autour de ce monsieur, autour de ce gourou, qui dispensent la bonne parole, qui contrôlent leur vie, c'est-à-dire qui contrôlent leur identité d'abord, qui contrôlent leur façon de manger, qui contrôlent les horaires et qui contrôlent bien évidemment leur sexualité, puisqu'elles doivent avoir des rapports exclusivement pour certaines qu'avec lui et être soumises quand bon lui semble à ses plaisirs.
Il justifiait tout. Il était dans un univers totalement parallèle. Il avait tout inventé, leur racontait une histoire globale.
Eh bien oui. Enfin, il se prend pour il se fait appeler Zeus déjà. Donc il se prend pour véritablement un dieu. Et puis il leur raconte l'histoire de l'Olympe. Chaque personne porte un nom d'une divinité grecque. Et puis il dispense comme ça chaque soir la bonne parole.
Margot, l'ambiance dans cette maison, ces femmes qui vivent avec lui, ça ressemble à quoi ?
Ah, déjà, il faut savoir que parmi ces femmes, il y a sa fille qui a rejoint sa communauté à l'âge de 19 ans, qu'il n'avait pas vue durant assez longtemps, parce que c'est un homme qui, au départ, avait une vie finalement assez banale. Hein. Il est agent immobilier, il a son agence immobilière à Libourne, il a une femme, une fille, et puis un jour, il s'intéresse de plus en plus à l'ésotérisme, au bouddhisme. Il se dit tantôt magnétiseur, tantôt guérisseur, et puis finalement, il divorce, il ne revoit plus sa fille, il fonde cette communauté, il la retrouve quand elle a 19 ans, elle intègre la communauté de l'Olympe, et il l'appelle Artémis.
Il va donner des noms à chaque femme.
Hein. Oui. Qui correspondent d'ailleurs à la réalité de ce qui se vit dans la secte, puisque Artémis, c'est la déesse de la chasse. Donc elle doit aller, comme son instrument, chercher d'autres adeptes qu'elle ramène à la secte. Ça, c'est très fréquent, c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de sectes, dans beaucoup de groupements sectaires. Il y a des personnes qui sont utilisées pour recruter pour le gourou.
Maître, ce qui caractérise les sectes aussi, c'est l'argent. Donc est-ce qu'il y a des histoires d'argent, parce que les extorsions de fonds, première chose. Deuxième chose, ce qui les caractérise aussi, c'est souvent l'exclusion de la famille des personnes qui viennent ici, plus de contact avec elles. Est-ce que ça se passe comme ça ?
Absolument, c'est des critères que l'on retrouve, puisque ce monsieur ne travaille pas. Il vit au crochet d'autrui.
D'accord.
Il a des revenus dont il bénéficie, mais qui sont les revenus d'autrui, qui sont les revenus des femmes qui sont dans la secte, et aussi de sa fille, qui, elle, a conservé un emploi, est professeur de danse, et ses revenus reviennent directement au gourou.
D'accord. Elle leur donne volontairement cet argent. Elle lui donne volontairement cet argent. Enfin,
tout l'objet de mon intervention est de dire qu'elle le donne sous emprise mentale.
Comment, et sur l'exclusion des familles, pardon, Philippe ?
Et sur l'exclusion des familles, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve, puisque les personnes qui sont les quatre femmes auxquelles je pense, si vous voulez, n'avaient plus de lien avec leur famille et avec leurs proches habituels.
Pascal Neveu, justement, comment ces femmes sont-elles rentrées dans cette mécanique intellectuelle, dans cet univers qu'ils créent ? Elles se font rebaptiser. Tout est très pensé dans ce que fait cet homme.
Alors, il y a quelques hommes également dans ce mouvement sectaire. Il ne faut pas oublier, moi je rappelle toujours les chiffres, c'est 500 000 personnes en France qui appartiennent à un mouvement sectaire et à peu près 70 000 enfants. Ce ne sont pas des gens qui sont faibles d'esprit, mais qui, à un moment donné, rentrent sous emprise, voire même un côté tyran avec des mégalos, parce qu'il y a une mise en forme, il y a un scénario, et il y a ce qu'on appelle le transfert. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut psychiquement être beaucoup plus faible parce que l'autre nous fait penser à quelqu'un de notre propre enfance, également peut-être manque d'amour qu'on n'a pas eu avec les parents, etc. Il y a plein de facteurs que l'on retrouve chez ces personnes fragiles. Mais ce qui est très intéressant, c'est les noms qu'il a donnés aux personnes. Déméter, c'est la mère. Perséphone, c'est la fille. On a Artémis et on a Hestia, qui est la déesse protectrice de la famille. Moi, j'ai l'impression comme cela qu'en dehors sa mégalomanie, c'est quelqu'un qui vit inconsciemment, ou en tout cas de manière très consciente, un inceste familial. C'est pas un hasard s'il a choisi ces noms-là.
Il crée une communauté où il projette des fantasmes ou des failles personnelles.
Oui, parce que alors ça rejoint également totalement l'inconscient collectif. Et il y a tout un vocabulaire, le nectar sacré. Alors, c'est sa semence. Hein.
Faut expliquer peut-être ce que c'est.
Oui, alors le nectar sacré, effectivement, c'est ce que boivent les adeptes de la communauté. C'est une mixture qui a été faite par le gourou qui
contient notamment du sperme, des menstrues des femmes de la communauté, et puis aussi des anxiolytiques et du vin rouge. Donc c'est un sacré mélange qu'il fait boire à ses adeptes, au début, je crois, de tout rite, enfin, en tout cas des bacchanales. Enfin,
c'est un véritable organise. Rituel, effectivement.
C'est un rituel, voilà.
Et les gens sont sensibles par rapport à cela. Donc on peut imaginer... Dans les mouvements sectaires, il y a beaucoup de mysticisme, il y a beaucoup de religions, il y a des histoires de santé également, et puis il se présente comme le sauveur de l'humanité. Il ne faut pas oublier que dans les années 80, on avait une secte qui s'appelait les adorateurs du chou. Qu'est-ce que c'était ? C'était un moyen pour dire que les enfants naissaient à partir des choux, et qu'ils s'autorisaient à féconder ces adeptes, femmes, et violer les enfants. C'était une secte pédophile. Donc vous imaginez tout de même que tous ces gens-là, si à un moment donné ils sont dans une emprise, c'est parce qu'ils sont déconnectés de la réalité. Et puis face à cet individu, vous voyez masqué, il est dans le théâtre en fait. Et ce théâtre-là, teinté d'ésotérisme, de mysticisme, etc., fait qu'on sait, enfin, on est plus vulnérable, en tout cas lorsque on nous raconte des histoires extravagantes.
Et ces personnes étaient
droguées. Plus c'est gros, mieux ça passe, hein, vous savez. Hein.
Et ces personnes étaient donc droguées, puisqu'il y avait des anxiolytiques dans ce qu'ils pouvaient leur faire boire. Il y avait aussi l'idée de les punir quand il se passait des choses. Ouais. C'est vous qui racontez ça cette semaine, notamment sur l'histoire du fameux volcan, on s'en souvient, islandais, qui avait paralysé le ciel aérien avec des avions cloués au sol. Racontez-nous.
Alors effectivement, en fait... Je crois que c'est pour ça aussi que vous parlez d'emprise mentale. C'est parce qu'il y a cette idée de chantage constamment, cette idée que si tu ne remplis pas tous mes désirs sexuels, si tu ne fais pas telle ou telle chose, il va y avoir une catastrophe. Des gens vont mourir et ça sera ta faute. Et c'est vrai que donc, forcément, la victime est complètement... Elle se sent coupable. Donc il y a ce côté aussi de chantage qui, je crois, est très important dans ce dossier-là et qui montre une certaine emprise du groupe. Au-delà de l'emprise financière, il y a aussi une emprise psychologique.
Mais pardon, mais il faut être un peu crédule. Je ne veux pas du tout manquer de respect à ces victimes. Hein, mais expliquez-nous comment est-ce qu'on peut... croire des histoires pareilles, quoi.
En fait, il ne suffit pas d'être crédule. Et justement, Monsieur Neveu l'a bien indiqué. Il y a des personnes très intelligentes et même parfois supérieures.
C'est quoi les profils ?
Ce sont des personnes très intelligentes qui ont une fragilité. Et cette fragilité, le gourou, avec sa propre problématique, va s'y accrocher et va plus vous lâcher. Et petit à petit, il va aller plus loin. Dans l'emprise, il va faire tomber ce qu'on peut appeler des verrous psychologiques.
Bah, il vampirise en quelque sorte.
Il vampirise et petit à petit, il va grignoter comme ça. C'est-à-dire que bien évidemment que les victimes ou les parties civiles qui sont dans ce dossier, si vous voulez, au départ, n'ont pas, on ne leur a pas dit je vais vous violer, je vais faire ceci, je vais vous maltraiter. C'est pas comme ça que ça se construit. C'est d'abord, c'est la séduction. On écoute la personne. La personne va servir de thérapeute. C'est exactement ce qui se produit chez Zos. Il a servi de thérapeute pour toutes les personnes.
Ce mécanisme, il est malheureusement présent à chaque fois, il se répète à chaque fois, il est bien identifié.
Oui. Et n'oubliez pas, voilà, pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, l'ordre du temple solaire, ce n'étaient pas des débiles qui étaient dedans. Ils ont fini par se suicider également. On retrouve dans toutes les organisations, mouvements sectaires, ces particularités et ces faiblesses psychologiques. Ils sont à la fois dans le mysticisme, ils jouent le rôle de psychothérapeute également. Il a son trône, comme dans la majorité des cas également. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut être plus ou moins sensible par rapport à ça.
Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. L'intelligence, selon le docteur Zaghuri, l'intelligence est en jachère.
Voilà. Qui a entendu plusieurs des victimes.
Absolument.
Professeur Zaghuri, psychiatre, vous défendez la fille de cet homme, qui elle-même a été victime. On imagine que pour elle, c'est encore plus complexe. C'est-à-dire qu'elle est à la fois la victime, en même temps la fille. Comment elle va, comment elle vit aujourd'hui avec tout ça ?
Elle vit bien. Elle est vraiment une image, j'ai envie de dire, de courage et de quelqu'un qui peut, malgré tout, se reconstruire. Pour moi, elle est l'exemple même d'une victime qui peut se reconstruire malgré la dérive et malgré le fait qu'il s'agissait de son père.
Alors, maître, le procès devait se tenir lundi,
oui.
À Bordeaux, cour d'assises de Bordeaux. Le procès n'a pas eu lieu parce que cet homme, Claude Alonso, avait un problème à un genou. Il s'était opéré d'un genou. Bon, on vous laissera dire si vous pensez que l'opération a été préparée juste en amont, une semaine avant, pour qu'il soit indisponible physiquement pour se rendre au procès. Mais votre cliente, Valérie Alonso, s'est pas présentée à l'audience. Et l'avocat de Claude Alonso dit « On ne peut pas accuser une personne, tenter et souhaiter qu'elle passe le reste de sa vie en détention sans venir expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue ?»
Tout simplement parce qu'elle est bloquée à l'étranger. Tout simplement pour des raisons purement matérielles, en réalité. Et elle veut s'expliquer devant la Cour. Et c'est d'ailleurs ce que je demande à la Cour, si ça devait se reproduire. C'était une visioconférence. Mmh. Donc, il n'est pas question de se défausser. Il n'est pas question de ne pas répondre aux questions des avocats respectifs. Au contraire, elle demande qu'à ça, à s'expliquer.
Margot, les autres victimes, où en sont-elles? Que disent-elles?
Là, toute la difficulté, c'est qu'effectivement, il y a eu des plaintes, donc une plainte de la fille du gourou, une plainte aussi de son amie, Perséphone, celle qu'on appelait en tout cas Perséphone, qui est basée sur un mensonge. Apparemment, ce qui s'est passé, c'est que Artémis, la fille du gourou, se serait rendue compte que son père lui mentait, elle aurait pris du recul et elle aurait déposé plainte avec cette amie. Pour ce qui est des autres adeptes, elles n'ont pas souhaité porter plainte. Elles disent qu'elles sont complètement conscientes de ce qu'elles font. Et je voulais également revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, il n'y a pas un profil clé dans cette communauté-là, dans le sens où on a aussi bien des personnes qui ont des difficultés professionnelles, d'autres qui sont, d'après mes informations, dentistes, peintres. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il y a un profil clé parmi ces adeptes. En tout cas, toutes ont refusé de porter plainte. Après, on peut dire que c'est parce qu'elles sont sous emprise qu'elles refusent de porter plainte. Mais il n'y a pas de profil type. Et en tout cas, elles sont persuadées que c'est de leur plein gré qu'elles ont intérêt cette communauté.
Pascal Neveu, d'un mot, on peut sortir d'une salle comme ça, mais rester sous emprise avec une difficulté à aller porter plainte et à reparler de tout cela?
C'est très fréquent. Bon nombre ne dépose pas plainte. D'ailleurs, on le voit avec les pervers narcissiques. C'est le même profil hein, également, finalement. Mais vous voyez, ils jouent à un moment donné sur deux registres. C'est-à-dire, je te rends coupable de ne pas sauver l'humanité, mais en même temps, tu es missionné, comme nous tous, dans notre communauté, pour sauver le monde. Et là, ça donne, si vous voulez, une euphorie mentale et psychique qui peut expliquer ces mécanismes d'emprise.
Merci beaucoup à vous trois. On suivra le procès quand il aura lieu. Évidemment, merci d'être venu nous éclairer sur cette affaire. Tout de suite, l'affaire de la semaine. Et c'est une affaire qui passionne l'Amérique et qui a largement franchi les frontières américaines. Où est Brian Laundry? Cet homme de 23 ans est aujourd'hui activement recherché officiellement pour une fraude bancaire, même si officieusement, il est bien le suspect numéro 1 dans le meurtre de sa petite amie Gabi Petitot, une jeune femme avec qui il était parti en voyage, voyage de couple très médiatisé sur les réseaux sociaux et qui a visiblement viré au drame. Brian Laundry est rentré seul avant de disparaître. Le corps de Gabi Petitot a lui été retrouvé, abandonné dans le Wyoming. Les dessous de cette affaire avec nos invités dans un instant, mais d'abord, les derniers éléments avec Anne-Solène Tavernier.
C'est une chasse à l'homme de grande envergure dans la réserve marécageuse de Carlton, en Floride. Des véhicules tout-terrain, des drones sont déployés à la recherche de Brian Laundry, le jeune homme de 23 ans, et visé par un mandat d'arrêt pour utilisation frauduleuse d'une carte de débit. Les forces de l'ordre veulent le retrouver, en attendant de rassembler d'éventuelles preuves de sa culpabilité, après la découverte dimanche dernier des restes de sa fiancée Gabrielle Petitot. En juillet, le couple est parti pour un road trip de 4 mois en amoureux dans le Grand Ouest américain. Chaque étape du voyage est postée sur les réseaux sociaux, mais depuis fin août, plus rien. Et c'est seul que Brian Laundry est rentré sans explication le 1er septembre à bord du van. Seul élément à la disposition des enquêteurs, cette vidéo filmée le 12 août dernier en Utah.
What's your guys' names?
Gabby.
Gabby, Brian, okay. What's going on? How come you're crying?
La police a reçu un signalement pour violence conjugale. Les explications de Gabrielle Petitot en pleurs sont confuses. Son compagnon, lui, explique pourquoi il a plusieurs égratignures sur le corps.
Elle m'a frappé avec son téléphone à la main, c'est pour ça que je l'ai repoussé.
Une altercation qui n'aurait pas été la seule au cours du voyage. Le 27 août, cette femme dit avoir vu le couple dans un restaurant.
Elle pleurait de façon hystérique. Elle est sortie et elle est restée comme ça sur le trottoir. J'ai tout vu. Lui, il a fait plusieurs allers et retours dans le restaurant et il s'en est pris à la serveuse en lui parlant mal.
L'Amérique s'interroge. Depuis plus de 10 jours, Brian Laundry s'est volatilisé. A-t-il pris la fuite? Se cache-t-il? Ou s'est-il suicidé? Il semble en tout cas être le dernier à avoir vu sa fiancée vivante.
Et cette affaire est faite de beaucoup de mystères. On va essayer d'enlever quelques-uns avec nos invités. Général François Daoust, bonjour, merci d'être là. Vous êtes l'ancien directeur de l'IRCGN et du pôle judiciaire de la gendarmerie, professeur aujourd'hui de sciences criminelles à l'université de Cergy-Pontoise. À vos côtés, François Durper, on ne le présente plus, consultant États-Unis BFM TV, et rejoindra Antoine Hollard, notre correspondant aux États-Unis dans un instant. Bonjour Antoine. D'abord peut-être, François Daoust, on va partir de l'actualité de cette traque qui est en train d'être menée pour tenter de retrouver Brian Laundry. Elle est compliquée, elle est difficile. On est dans une zone, nous disent les enquêteurs, où il y a des alligators, où il y a des bêtes, où on travaille difficilement. C'est compliqué de retrouver un homme dans une zone qu'on a à peu près délimitée ?
Alors, à peu près délimitée la zone, oui. C'est une zone à la taille des États-Unis. Ouais. Donc, on n'est pas sur quelques hectares. On est sur des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'hectares, sur un terrain particulièrement difficile. Et c'est une zone qui a été définie a priori par rapport aux derniers renseignements connus. Mais à savoir si ça ne va pas au-delà et que, justement, dans cette fuite, il soit déjà hors zone. Donc là-dessus, c'est vraiment compliqué, surtout s'il n'y a pas derrière un élément auquel on pourrait se raccrocher, un élément matériel tel qu'un téléphone ou un équivalent pour qu'il y ait un signal et une capacité de pouvoir situer au moins dans une zone plus restreinte.
Fuite, François Durper, qui avait été préparé parce qu'il est parti avec de l'argent. D'ailleurs, il est recherché initialement pour une fraude bancaire. Il aurait retiré beaucoup d'argent sur le compte de Gabi Petitot.
Exactement. D'abord, première chose, c'est pour ça qu'on le recherche. C'est-à-dire que sur le plan juridique, il faut bien voir que la police américaine ne le recherche pas parce qu'il est suspect dans le crime. Ça serait pas possible. Il n'y a pas suffisamment de preuves matérielles pour en faire un suspect au sens juridique du terme. Ça veut dire que s'il n'a rien fait, il revient et il porte plainte contre la police américaine. C'est assez étonnant. Donc ça arrange bien la police. Il a utilisé la carte bleue, semble-t-il, de Petitot. Et donc, ça permet de le rechercher pour cette fraude, puisque ce n'est pas sa carte bleue. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça va être difficile, sans doute, de le retrouver pour une raison simple. Il y a quelques heures, la meilleure amie de Petitot a déclaré il connaît très bien cette zone, et puis il a l'habitude de cela. D'ailleurs, il a passé des semaines et des semaines dans les Appalaches. Vous savez, aux États-Unis, vous avez des gens qui partent comme ça pendant 5-6 jours et puis qui aiment vivre complètement dans la nature, un petit peu, vous savez, le poète américain Thoreau, le retour à la nature. Et donc, il a sans doute cette capacité de rester plusieurs jours loin enfin des services de police. Mais on ne sait pas, évidemment, s'il est encore en vie. Hein.
C'est encore une question qui se pose. Ça nous interroge, Général. Le FBI, François le précise bien, ne parle pas de suspect, le recherche pour fraude bancaire. Chez nous, avec les éléments qu'on a là, j'ai le sentiment qu'on aurait dit que c'est le suspect numéro un.
Tout à fait. Là, ne serait-ce que sans bafouer la présomption d'innocence, le faisceau d'éléments qui existe fait que c'est quelqu'un d'intérêt pour l'enquête et un intérêt majeur. En premier, les témoignages qui reviennent, on y reviendra certainement, les messages qu'il y a eu, etc., font que...
La dispute du 12 août.
Voilà. Et il revient en plus avec le véhicule de sa compagne, ce qui fait que seul... C'est quelqu'un quand même qui convient de passer par le prisme d'une garde à vue, au moins pour...
Et c'est vrai qu'en France, en général, on n'a pas mis longtemps à suspecter Xavier Dupont de Ligonnès. Hein. Il disparaît, sa famille est tuée. Rien ne nous dit aujourd'hui que...
Exactement.
On évoquait Cédric Jubilard tout à l'heure.
On le soupçonne, voilà, Cédric Jubilard tout à l'heure. Et on adore ces histoires de disparition. Le docteur Godard, dont on a parlé ensemble il y a 15 jours, 3 semaines, ici, Agnès Leroux, Maurice Agnolet, il n'y a plus de corps, il n'y a pas de voiture,
mais il est condamné. Il a beaucoup fait parler.
Bien sûr. Et on est dans ce genre d'histoire. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'on nous vend des séries américaines, enfin, on les consomme tous, des séries américaines où c'est toujours à la fin la police qui gagne. Et ben là, non.
Non, c'est beaucoup plus compliqué. Et là-dessus, mon voisin, qui est un éminent spécialiste des États-Unis, vous le direz mieux que moi, entre les polices de comté, les polices d'État et le FBI, qui a une transversalité, mais pour certains crimes, pas pour tous, etc., etc. On voit bien en plus ce morcellement, et au point de vue force police, qui entraîne souvent un morcellement dans l'enquête. Avec parfois une perte de renseignements et une perte d'éléments.
Ou des informations qu'on se cache les
voilà,
uns les autres.
Voilà, ouais. Voilà.
Alors on va reprendre justement les différents éléments de l'enquête. Juste avant ça, je voudrais qu'on aille rejoindre Antoine Eulard, qui est correspondant de BFM TV aux États-Unis. Antoine, si on parle beaucoup de cette affaire, c'est parce qu'elle passionne aux États-Unis, qu'elle fascine littéralement les Américains.
Oui, les Américains se passionnent littéralement pour cette affaire. Beaucoup, en fait, s'identifient à la jeune femme. D'abord parce que le road trip qu'elle avait entrepris dans l'Ouest américain, c'est un voyage que beaucoup d'Américains ont déjà fait, souvent en couple d'ailleurs. Et puis, on l'a vu dans le reportage, la jeune femme postait énormément de photos, de vidéos. Ça veut dire que les internautes ont pu suivre au quotidien son périple et ça crée un sentiment de proximité. Beaucoup ont le sentiment de la connaître. Du coup, lorsqu'elle a été annoncée disparue, beaucoup d'Américains ont voulu donner un coup de main et se sont mis à jouer les enquêteurs sur Internet. Alors certains se contentent de relayer les appels à témoins, mais d'autres vont beaucoup plus loin. Ils passent des journées entières, des nuits entières à éplucher les photos, les vidéos, à les décortiquer, à la recherche d'un indice qui permettrait de faire basculer l'enquête. Alors ce travail parfois permet d'aider la police. Il y a au moins deux témoins importants qui se sont d'abord manifestés sur les réseaux sociaux avant d'être entendus par le FBI. Mais parfois, ça donne aussi du grand n'importe quoi. On a vu fleurir ces derniers jours sur TikTok des vidéos de personnes qui se présentent comme des médiums et qui affirment avoir parlé au fantôme de Gabi Petito. Enfin, au-delà d'Internet et des réseaux sociaux, et ça témoigne aussi de l'immense émotion suscitée par cette disparition, il y a des riches Américains qui mettent de l'argent sur la table, qui promettent de très grosses récompenses à toute personne susceptible de faire progresser l'enquête, des récompenses qui peuvent atteindre 20 à 30 000 dollars. Reste que ce phénomène ici commence à créer un début de polémique. Certains estiment que si Gabi Petito bénéficie d'une telle attention populaire et médiatique, c'est aussi parce qu'elle est blanche. Si elle avait été hispanique, noire ou asiatique, eh bien elle n'aurait pas eu autant d'attention, on n'aurait pas parlé de sa disparition et la police probablement aurait classé rapidement l'affaire. Alors pas de quoi faire retomber la folie qui s'est emparée du pays ici autour de ce drame. Pour vous donner une idée, le hashtag Gabi Petito a été relayé 890 millions de fois rien que sur le réseau social TikTok.
Antoine Eulard, aux États-Unis pour BFM TV, passionnant. Les éléments qui alimentent aussi la passion des Américains pour cette affaire et la nôtre, c'est tous ces éléments qui, quand même, sont plutôt à charge pour Brian Laundrie. Vous évoquez à demi-mot ce message, le dernier message SMS parti du téléphone de Gabi Petito vers ses parents.
Oui, alors ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a un message le 30 août. Ce message dit pas de réseau dans le Yosemite. Yosemite, si vous connaissez la géographie américaine, on est plutôt à l'ouest des États-Unis, on est en Californie. On n'est pas dans le Wyoming. Et le 27 août, ce que l'on sait, c'est que des restaurateurs disent, ils se sont disputés dans notre restaurant, un restaurant mexicain qui s'appelle Merry Piglets, les petits cochons, les joyeux petits cochons. Eh bien, on sait qu'ils se sont disputés le 27 août, qu'il y a un message qui aurait été envoyé le 30 août, sauf que le corps a été retrouvé à 47 km du restaurant en question. Est-ce qu'elle aurait été au restaurant le 27 août ? Elle serait partie dans l'Ouest américain, envoyer un message à sa maman, revenir pour se faire tuer à quelques kilomètres du restaurant où elle s'est disputée quelques jours plus tôt. Vous voyez que les éléments à charge sont très très forts. Juste d'un tout petit mot, ce que Antoine a dit est très très juste. D'abord, on en parle beaucoup parce qu'effectivement, c'est une influenceuse, ce qu'on appelle aux États-Unis une macro-influenceuse. On est à plus de 500...
On réexplique, influenceuse, ça alimente les réseaux sociaux, voilà, et ça exactement. Vit par les réseaux sociaux.
Et elle a 800 000. D'ailleurs, c'est un peu morbide, post-mortem, elle continue à avoir des followers. Bon, c'est quand même assez inquiétant. La police américaine, d'ailleurs, dit... Nous, on est assez OK d'avoir beaucoup, beaucoup de détectives derrière nous. C'est une sorte d'alerte Amber, vous savez, alerte enlèvement en France. Mais puissance 10, puissance 100, tout le monde nous aide. Alors évidemment, il faut séparer le bien du mal. Et puis, ce que dit aussi Antoine, c'est ce fameux Missing White Woman Syndrome, le fameux syndrome de la femme blanche disparue. On rappelle qu'il y a 30% des femmes disparues qui sont blanches aux États-Unis, 30%, et qu'elles ont 100% de la couverture médiatique. Par exemple, dans le Wyoming, où elle a disparu, on a retrouvé son corps, il y a 100 femmes amérindienne, parce que c'est un territoire où il y a beaucoup d'Amérindiens, qui ont disparu depuis 2011, qui n'ont pas été retrouvés, qui n'ont pas fait l'objet de couverture médiatique. Et on parle beaucoup aux États-Unis de Daniel Robinson notamment, ou si vous, de Lauren Shaw, qui est asiatique, qui a disparu au début de l'été. Et ni CNN, ni personne s'est préoccupé de sa disparition.
Et là, tout le monde s'en préoccupe. Mmh. Le message SMS téléphonique, le van avec lequel revient le petit ami sans la petite amie à l'intérieur. Le petit ami qui ne veut pas s'expliquer, qui n'a rien à dire ni aux enquêteurs, ni à sa belle famille, ça reste quand même assez incroyable. Est-ce que cette mobilisation populaire, on l'évoquait à l'instant avec Dominique, qui a existé d'ailleurs sur l'affaire Jubilard, qui a existé sur l'affaire Daval et qui existe encore, avec des gens qui s'improvisent un peu sur le terrain pour tenter de savoir la vérité, est-ce que ça peut aider les enquêteurs ?
Alors, paradoxalement, rarement. En tout cas, dans un premier temps, parce que c'est fait d'une manière anarchique. Quand c'est fait d'une manière anarchique sur un terrain qui n'a pas encore été investigué par les enquêteurs, ça va être un massacre. C'est un massacre au sens du terme. Ça va écraser tous les éléments matériels qui auraient pu exister. Si c'est par la suite, parfois, ça peut susciter des témoignages qui seraient passés sous silence, parce qu'en disant « mais non, ce que j'ai vu, c'est pas tellement important », et finalement, ce petit élément peut ressortir et venir apporter quelque chose. Donc c'est quel moment ça peut aider, quel moment ça peut au contraire enfermer l'enquête dans une...
Et général, comment la gendarmerie surveille ça? Vous avez une cellule dédiée qui surveille les réseaux sociaux sur l'affaire Jubilard, par exemple, Jubilard.
Alors, les réseaux... Moi, j'aime bien parler de réseaux numériques plutôt que de réseaux sociaux, parce qu'on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas grand-chose de social dedans, mais plutôt des intérêts ou communautaires ou vaguement de voyeurisme. Alors... Il y a dans toutes les affaires un suivi de ce qui se dit, ce qui se fait, parce que c'est ouvert à tout le monde. Donc les données sont offertes. Et à partir de ce moment-là, ça intéresse. Il y a toujours une surveillance et en tout cas un échange parfois quand il y a un élément qui peut être moteur.
Merci beaucoup. Merci à vous trois d'être venus nous éclairer sur cette affaire Gaby Petitot qu'on va continuer évidemment à suivre. Et sur BFM TV, et plus précisément dans Affaires Suivantes. On vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine, 13h, pour un nouveau numéro d'Affaires Suivantes. D'ici là, passez un bon dimanche sur BFM TV.